Charles et moi sont arrivés à Nîmes le 1er ou le 2 juillet. Nous avons été accueillis par un couple dans l'église. Je ne vais pas dire quel couple parce que je suis sûr que le couple ne va pas aimer si je dis leur prénom. Et nous sommes venus plusieurs reprises depuis juillet, je pense 3 ou 4 fois. Nous sommes venus vous rendre visite avant que mon stage commence aujourd'hui ou le 1er septembre. Donc merci d'abord pour votre accueil. Avant de partager le message avec vous cet après-midi, Paul a demandé à ce que Charlotte et moi on se présente. Comme ça, vous nous connaissez un peu mieux. Donc c'est ce qu'on va faire là. Est-ce que vous avez entendu l'accent? Est-ce que vous avez vu mon t-shirt? J'ai vu que Paul, hier, il a mis une chemise du Cameroun et je me suis dit quand même, il faudrait que je mette mon t-shirt écossais. Voilà, moi je suis né en Angleterre, à Chester, et j'ai grandi en Écosse depuis l'âge de 5 ans, avant de venir en France à 19 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne engagée, des membres dans l'église. Et je vais te laisser te dire d'où tu viens.
Et moi, j'ai un accent français. Je m'appelle Charlotte. Je suis née à Chambéry, en Savoie. Pour la petite histoire, mes parents sont dans le ministère aussi, pasteurs de la même union d'église que la nôtre ici, collègues de Paul et de plein d'autres pasteurs. Donc j'ai grandi aussi dans une famille chrétienne, investie plus dans le ministère. Moi, d'être aujourd'hui la femme d'Amish et d'être future femme de pasteur, c'est presque normal et avec grand plaisir. Pour ceux qui pourraient se demander, ah, est-ce que c'est pas un rôle spécial? Oui, peut-être, mais est-ce que ça me fait peur? Non, pourvu que ça dure. Voilà, contexte familial.
Il faut savoir qu'à l'âge de 16 ans, Charlotte n'avait pas envie de se marier avec un pasteur. Elle avait dit, bah, moi j'ai fait mon travail. Bah, aujourd'hui, désolé. À l'âge de 17 ans, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur, un peu improbable, lors d'une soirée de jeûne. Et il y avait une prophétie pour un jeune comme quoi il devait se remettre sur son vélo. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est tellement pas vrai, Seigneur. Comment les gens peuvent savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Et j'ai prié, Seigneur, si c'est vraiment vrai, montre-moi. Alors aujourd'hui, je reconnais, voilà, j'ai osé dire, montre-moi. Et j'étais peut-être derrière, comme certains d'entre vous. Je me cachais, et le pasteur, il est venu vers moi, il a dit, Amish, j'ai un mot pour toi. C'est leadership. Être leader, être responsable. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, je ne peux plus nier que Dieu est vrai, nier qu'il peut faire les miracles, nier que des personnes peuvent venir et comprendre des parties de ma vie grâce à lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et je devais me faire baptiser à l'âge de 18 ans, mais vous savez ce qui s'est passé? Le Covid. Donc j'ai attendu 2 ans. Et j'avais 20 ans quand je me suis fait baptiser avec mon petit frère et mon ami d'enfance, tous ensemble, dans la mer, en Écosse, bien sûr.
Et moi, à cette même période, mes parents étant dans le ministère, décident de prendre une année sabbatique et de tout quitter alors qu'on était à Chambéry. J'étais ado, j'avais 15 ans, la vie était fabuleuse. On vivait un peu dans le pays des bisounours à Chambéry. Et là, on nous apprend qu'il faut déménager à l'étranger. Au début, c'est un peu exotique, c'est sympa. On se dit qu'on a une vie un peu particulière, peut-être un peu différente des autres. C'est attirant. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'étranger, qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas si bien que ça la langue, qu'on n'est personne pour personne, qu'on n'a pas d'amis. Et là, on expérimente la solitude au plus haut point. À chaque fois, c'est un peu ça. Et donc, jusqu'à maintenant, la foi, c'était un peu celle de mes parents, celle de la famille. J'étais enfant de pasteur, je me cachais un peu derrière, entre guillemets, ce statut-là. Mais au milieu de cette solitude, ben là, il n'y avait plus d'issue. je crois que c'est à ce moment-là, dans cette période, je ne pourrais pas parler d'une date précise, mais dans cette période de solitude, que j'ai dû me confier en Dieu et que j'ai dû apprendre à dépendre de lui. Et donc, en fait, c'était à peu près au même âge que Camille, et donc j'avais 16 ans à ce moment-là. Mes parents, finalement, finissent cette année en Écosse, trop bien, on rentre en France. Ils acceptent un nouveau ministère pastoral à Nice et je me fais baptiser dans la mer à Nice. En 2018.
Voilà, l'eau était plus chaude sûrement. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai décidé, Seigneur, je veux te servir. En vrai, de vrai, il faut savoir que j'ai pas réussi l'équivalent du bac. J'étais pas intéressé par les études à l'école. Et donc, j'ai rien fait. Et je cherchais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pendant cette année à venir. Et en priant avec mon responsable de jeunes, j'ai vu une porte s'ouvrir avec une organisation missionnaire britannique qui envoyait des jeunes dans des pays partout dans le monde. Et ils m'ont mis en France. Moi, je voulais être quelque part exotique, un peu chaud, pourquoi pas la Kenya, pourquoi pas Inde ou Pérou. Et ils m'ont mis en France. Voilà. À ce même moment, madame est partie de la France pour retourner en Écosse. On ne se connaissait pas. Je te laisse expliquer.
Donc pareil, après le bac, il y a toujours cette question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ne sachant pas trop et ayant toujours un peu cette cassure en moi de l'Écosse, ça s'était mal passé. À la fois, c'est là où j'ai rencontré Dieu et à la fois, j'avais encore des souffrances. Je suis donc retournée en Écosse. Cette fois-ci, c'était mon choix et plus celui des parents pour réparer. Et c'était un peu l'année de la rédemption. Et j'ai choisi là-bas de servir pendant un an dans une église et faire un service civique dans son pays quand lui était dans le mien. Et c'est cette année-là qu'on a quand même réussi à se rencontrer à Connexion, l'événement de jeunesse que sûrement certains d'entre vous ont participé, Connexion We Connect. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés en 2019 en étant tous les deux membres de l'équipe bénévole. Et cette même année-là, je fais une petite parenthèse, j'ai accepté de faire partie du comité d'organisation de Connexion. Donc Connexion, c'est un événement géré par la Fédération Baptiste, dont notre église fait part, et je fais partie de cette comité d'organisation.
Donc vous avez compris, j'ai rencontré Charlotte, j'ai aussi rencontré sa maman à ce même événement. Alors, il faut savoir que sa maman aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Hein. Mais en rencontrant la maman de Charlotte, j'ai vu qu'elle avait un projet d'ouvrir un café associatif à Nice. Et j'étais intéressé et j'ai décidé, je vais aller voir ce café associatif, ou en tout cas le plan, le projet, et je vais voir si c'est pour moi. Donc je suis parti de Paris, j'ai vu, et à ce moment-là, je me suis dit non, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de servir de café pendant un an et parler aux gens à Nice. Je suis rentré à Paris et deux semaines plus tard, j'ai bien compris que en fait, c'est là où je voulais que je sois. J'étais en train d'écrire un chant en anglais, disant Dieu, j'irai là où tu veux que je sois. À la fin de la chanson, j'avais Nice en tête. Je suis parti là-bas à partir de septembre 2020, donc juste après le Covid, juste après le Covid, et il y avait Charlotte dans les parages. Elle vivait à sa maison avec ses parents, elle commence ses études en français et langue étrangère, et moi j'ai décidé de vivre avec sa famille pendant un an pour apprendre le français, pour écouter Dieu et pour servir dans ce café. Vous imaginez ce qui s'est passé. Je suis parti de la maison avec la fille. C'était pas le but, mais bon. Pendant cette année-là, j'ai mis du temps à part pour Dieu. Et j'ai mis du temps à part pour écouter Dieu. Et c'était lors d'un moment où je devais écrire ma lettre de nouvelles pour mon église en Écosse, qui me soutient. Et je devais écrire cette lettre de nouvelles et j'arrivais pas. J'ai écouté la louange en même temps et en fait, à ce moment-là, j'étais porté à partir dans le jardin et lire ma Bible. et je suis tombé sur ce verset. Exode 4, versets 11 à 12. L'Éternel lui répondit, donc à Moïse, l'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche, qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » À ce moment-là, j'ai réalisé en fait que Dieu voulait que je lui serve pendant ma vie, que je lui serve et que je parle de lui à des personnes qui ne le connaissent pas et aussi à des personnes qui le connaissent. Bon, je n'ai pas le même projet que Moïse, mais j'ai bien apprécié que quelqu'un a prié pour moi juste avant cette intervention et cette personne a prié que tu aies ce même courage que Moïse. Ça m'a fait un petit clin d'œil. Voilà, cette année-là, j'ai eu cet appel et Charlotte, elle a commencé ses études en français et langue étrangère.
Donc, moi, je commence ma licence en sciences du langage un peu, finalement, avec cette idée de est-ce que je pourrais pas être une personne qui enseigne le français à des étrangers qui arrivent dans mon pays ? Parce que moi-même, j'ai été étrangère ailleurs et j'aurais peut-être aimé que quelqu'un soit là pour m'entourer, m'accueillir et me permettre d'apprendre l'anglais parce qu'en réalité, celui qu'on apprend à l'école, c'est bien joli, mais apprendre les numéros, les couleurs et dire où est-ce que je peux acheter du pain quand au Royaume-Uni il n'y a pas trop de pain, c'est pas très pratique en réalité. Donc moi j'aurais aimé que quelqu'un soit là pour m'entourer et me permettre d'apprendre la langue. Donc à mon tour, je me suis dit mais c'est peut-être à moi de faire ça et de permettre aux étrangers d'avoir quelqu'un qui les accompagne et leur permettre d'apprendre le français pour se sentir mieux parmi nous. Donc j'ai commencé ma licence à Nice pendant 3 ans, pendant que toi tu étais...
Oui, donc après mon appel, j'ai décidé qu'il fallait quand même me former. J'aurais pu me former au Royaume-Uni, certes, mais j'avais déjà ressenti l'envie de servir le peuple français et servir auprès des Français. Donc je suis parti en tant que volontaire, en tant que bénévole à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne pour que je puisse continuer d'apprendre le français. Après cela, je commençais des études pendant 3 ans. J'ai fait ces 3 ans, Paul l'a bien expliqué, je viens tout juste de finir. Je suis très content. C'est passé, on a eu... J'ai passé les 2 premières années tout seul, avec Charlotte à Nice et moi à Paris. Et puis les 2 dernières années, on s'est mariés. Bon, on s'est mariés après 2 ans, et puis on a passé 2 ans ensemble. Et on a passé ces années avec la communauté à l'IBN qui étaient des années enrichissantes à la fois pour notre foi, à la fois pour des amis et des futurs amis avec qui nous allons pouvoir vivre des moments ensemble. Je donne une petite anecdote, pardon. J'ai 2 amis de l'IBN aujourd'hui avec qui je prie toutes les 2 semaines. Même si on n'est pas dans la même ville, on passe un moment ensemble, toutes les 2 semaines, pour prier, pour savoir comment on va. Et je trouve que c'est tellement précieux d'avoir ces amis avec nous encore aujourd'hui. Sur ma feuille, c'est écrit « Expliquer le stage et mes études de master ». Mais je pense que Paul l'a fait. Je pense que tout le monde a bien compris. Mais bref, pour vous donner une petite idée, je vais partir environ 8 à 10 fois par an à Paris pendant 3 jours pour faire des études et revenir. Je vais faire mes devoirs ici et je vais pouvoir participer à la vie de l'Église auprès de vous. Donc,
voilà. Donc lorsque Amish sera soit à Paris, soit parmi vous, moi je reste, je vis à Nîmes. On a une super maison que Gérard Chabal, je ne sais pas où il est, Gérard, sûrement en train d'aider quelque part. Voilà, nous met à disposition avec Edith et on est très reconnaissant. Vous viendrez voir avec grand plaisir. Et voilà, donc moi je reste à Nîmes, les vacances sont passées, il va falloir que maintenant je trouve du travail parce que j'ai validé mon master au mois de juin. Trouver du travail dans l'enseignement idéalement du français langue étrangère, si ça résonne chez quelqu'un, je prends l'information que vous aurez à me donner. Mais ça peut aussi être tout autre. Les portes sont ouvertes et on a 2 ans devant nous et je sais qu'il y a plein de choses encore à apprendre. Donc voilà, mais c'est à l'origine plutôt mon domaine.
Je pense que ça va. Je pense que vous nous connaissez déjà un petit peu. Venez nous voir. On est prêt à discuter avec vous. On a envie de vous connaître. Donc, venez nous voir si vous avez des questions. Je pense qu'il n'y a pas plus qu'on peut dire, non? C'est bon, tu peux t'asseoir, vas-y. J'avoue, je vais un peu plomber l'ambiance. Et je vous demande pardon d'avance. Je suis quelqu'un de assez. Je crois que je suis assez vrai dans la vie. Je crois que vous allez voir si je suis en colère, ça se voit. Si je suis dans la joie, ça se voit. Et donc, d'abord, je vous demande pardon si ces 2 derniers jours, j'ai été un peu froid. C'était pas l'objectif, c'était pas le but. Pas plus tard qu'hier, Charlotte et moi avons reçu une nouvelle des amis chrétiens qui se séparent à cause de l'infidélité. C'était des amis proches et des amis avec qui on a assisté au mariage, avec qui on a prié, avec qui on pensait que tout allait bien. J'avais prévu une autre introduction pour mon message. Mais cette nouvelle m'a fait douter et m'a fait poser des questions, la question qu'en vrai je me suis posée toute la semaine. Est-ce que c'est possible d'aimer les uns les autres comme Christ nous aime? Et cette nouvelle, franchement, j'avais préparé ce message et cette nouvelle, voilà, m'a fait redouter. Si je suis debout devant vous aujourd'hui, c'est pour dire que je crois sincèrement que oui, nous pouvons aimer comme Christ nous aime. Je crois sincèrement et je crois que l'œuvre du Saint-Esprit en nous peut nous transformer. Il peut nous guider de sorte que nous puissions aimer comme Christ. Et je vous pose la question, est-ce que vous le croyez ? C'est le verset qui précède celui dont Paul a parlé hier, et c'est ce que nous voulons vivre cette année. Jean 13, verset 34. « Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Tout au long de Jean 13, nous voyons la différence entre l'amour que Christ a pour ses disciples et l'amour que les disciples ont pour lui. Nous voyons que aimer, c'est un défi, même pour les disciples. Mais le jour où nous acceptons le pardon de Jésus et sa seigneurie dans notre vie, nous rencontrons ce défi, aimer comme Christ. Que nous soyons matures dans la foi d'ailleurs, responsables du groupe de jeunes, membres du conseil, pasteurs, tout le monde partage ce défi. Aimer comme Jésus. Et nous pourrions nous demander, comme je vous ai déjà demandé, est-ce vraiment possible d'aimer comme Jésus? Pourquoi Jésus nous demanderait quelque chose d'impossible? Et pour répondre à cette question, je nous invite à regarder l'amour de Jésus dans ce chapitre de Jean 13. Puis je vous invite aussi à regarder l'amour des disciples dans ce chapitre. Et puis, nous allons nous reposer cette question. Est-ce possible d'aimer comme Christ? Alors, donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Et si vous avez votre téléphone, utilisez-le. Et en même temps, pourquoi pas, mettez-le en mode avion. Donc, nous allons découvrir à peu près toute l'histoire de ce chapitre de Jean 13, mais pas de manière chronologique. Donc, je vais d'abord m'arrêter sur les versets qui parlent de l'amour de Jésus, puis les versets qui parlent de l'amour des disciples. Et je lis dans la version de la Bible de Sumer. Donc, d'abord le verset 1. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour. Sautons quelques versets. On arrive au verset 4 jusqu'au 5. Il se leva. Jésus se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Nous arrivons au verset 12 jusqu'à verset 15. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour que, à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Le verset 1 de ce chapitre nous donne suffisamment de détails pour connaître le cœur de Jésus. Il savait que dans quelques jours seulement, il allait subir une mort barbare, cloué à la croix, moqué et humilié. Jésus était pleinement conscient de sa souffrance imminente. Et pourtant, au lieu de se soucier de lui-même, il pense aux siens. Selon nos normes, selon les normes de la société, c'est à nous de prendre soin de celui qui souffre, et non pas celui qui souffre qui prend soin de nous. Mais sa préoccupation première était d'assurer ses disciples de son amour pour eux. Alors que nous serions en panique si nous savions que notre mort était imminente, alors que nous aurions besoin d'être réconfortés par nos proches, Jésus vient bouleverser notre conception d'un amour véritable. Et dans ce premier verset, nous voyons que Jésus n'est jamais conduit par le stress de son environnement, ni par la peur de ce qui va se passer. Mais lui, le Fils de Dieu, est constamment mouvementé et conduit par l'amour parfait de Dieu. Ainsi, Jésus va complètement renverser les rôles. Il va prendre soin de celui qui devrait prendre soin de lui. Tourmenté intérieurement, Jésus va s'abaisser et montrer à ses disciples sa marque suprême de son amour pour eux, le lavement des pieds. À l'époque, en entrant dans une maison, c'était une coutume domestique de laver les pieds, ou laver ses propres pieds plutôt, à la fois pour les raisons hygiéniques, mais aussi pour les raisons de simplement vouloir se rafraîchir. Cela se faisait en arrivant à la maison, soit l'hôte donnait une bassine d'eau à son invité pour laver ses pieds, soit l'esclave s'abaissait et lavait les pieds de son invité. Mais jamais, jamais l'hôte s'abaisserait lui-même pour laver les pieds de son invité. Mais Jésus, le maître et seigneur des disciples, a pris la place de l'esclave. C'est lui qui s'est abaissé pour laver leurs pieds. Il montre qu'il est un maître qui aime. Il montre qu'il se soucie du bien-être physique et de l'épanouissement de ses disciples. Jésus aurait pu laver les pieds de ses disciples avant le repas, mais ne l'a pas fait. C'est parce que ce n'était pas une simple action sanitaire, mais un véritable témoignage de son amour pour ses disciples. À l'époque, s'humilier de cette manière était une manière de se montrer faible. Mais Jésus nous montre que son amour casse les codes de la société sur le plan relationnel. En effet, le plus grand s'est humilié à la place du plus petit. Et je pense qu'on pense tous à un petit verset. Celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. L'amour de Jésus est révolutionnaire, car il n'est pas orienté par ses émotions, mais il est orienté par sa mission, venir servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup d'hommes. Et cet amour révolutionnaire de Jésus se voit dans chaque partie de sa vie. Qu'il soit en train de se rendre impur en touchant un malade ou une lèpre, qu'il pourvoie de la nourriture pour 5000 personnes ou qu'il guérit un malade le jour du sabbat. La racine de chaque action, de chaque intervention de Jésus vient de son amour pour Dieu et son prochain. Il va même jusqu'à laver les pieds de celui qui va le trahir. Il aime ses disciples et il nous aime malgré nos failles et nos difficultés à l'aimer autant en retour. L'amour de Jésus n'est pas sélectif, mais inconditionnel et universel. Et donc son amour est irréprochable. Après le lavement des pieds, Jésus explique la signification de son geste. Si les disciples ont envie d'agir comme lui, avec un amour irréprochable, sincère et parfait, alors ils doivent suivre son exemple. L'exemple de leur maître, leur Seigneur. Jésus disait, « Je viens vous donner l'exemple qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. » Les disciples sont désormais appelés à aimer comme Jésus. Mais dans ce même chapitre, nous découvrons qu'ils ont du mal à comprendre son amour. Et donc, je vous invite à retourner à votre Bible. On va lire les versets 2 et puis 27 au 30. Le verset 2. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le projet de trahir son maître et de le livrer. Et le verset 27 à 30. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à la table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le pain, le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Dès le deuxième verset, juste après l'annonce de Jésus qu'il allait montrer une marque suprême de son amour à ses disciples, nous apprenons que Satan est entré dans la vie de Judas. Et non seulement entré, mais il est en train de le convaincre, en convaincre de trahir son maître. Pourtant, Judas avait servi comme disciple. Il avait prêché la bonne nouvelle. Il aimait Jésus et Jésus l'aimait en retour. Et pourtant, le voici en train de préparer la trahison de celui qu'il appelait son maître. En méditant sur ce chapitre, j'ai été vraiment frappé par les deux ambiances autour de ce repas. On pourrait dire une salle, deux ambiances. Le verset 20 nous montre que Jésus était troublé intérieurement. Et pourtant, nous voyons l'hypocrisie de Judas, qui laissait Jésus laver ses pieds, malgré son envie de le trahir. De même, regardons de plus près le verset 27 à 30. Jésus montre à Jean et à Pierre que Judas va le trahir. C'est lorsque Judas prend le morceau de pain que Satan l'a pleinement convaincu de trahir son maître. En d'autres termes, le cœur de Judas s'est complètement endurci. Il n'y avait pas de retour. Il ne pouvait plus accepter l'amour de Jésus. Il ne pouvait plus faire demi-tour. Judas a préféré les 30 pièces d'argent à son maître. Il a remplacé l'amour pour Jésus par l'amour pour lui-même. Et le verset 30 nous révèle une vérité puissante. Là où réside l'amour de Jésus, le mal ne peut pas exister. Donc Judas s'est enfui dans l'obscurité, incapable de cohabiter avec la lumière que présente Jésus. Alors si se comparer à Judas est trop violent pour nous, peut-être nous pourrions aussi prendre l'exemple de Pierre, le disciple à qui Jésus a confié la responsabilité de prêcher aux foules, de sorte que des millions de personnes confient leur vie en lui, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et participent dans l'Église naissante. Nous pourrions croire que Pierre aime d'un amour parfait et irréprochable aussi. Mais je vous propose de regarder les versets 6 à 10. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui protesta. On parle de lavement des pieds. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas !» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné entièrement est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » C'était impensable pour Pierre de laisser son maître s'abaisser et le servir. Et au premier regard, on pourrait croire que Pierre agissait par humilité. Or, face à Jésus, la vraie humilité est celle qui reçoit l'amour de son maître et le reçoit avec reconnaissance. Et Jésus répond au refus de Pierre. « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » En effet, si Pierre ne laissait pas Jésus laver ses pieds, comment pourrait-il recevoir l'amour de Jésus à la croix ? Comment pourrait-il laisser Jésus mourir pour lui? Et de même, nous voyons que Pierre n'avait pas complètement compris la signification de l'action de Jésus. Parce qu'il demande alors, lave-moi les mains et la tête. Mais Pierre a déjà été entièrement lavé par Jésus, le jour où il a commencé de croire en lui. C'est comme le baptême. Nous le recevons quand nous commençons à croire en Jésus. C'est le signe visible de notre purification intérieure, de notre purification de nos péchés. Mais comme le lavement des pieds, c'était une coutume quotidienne, de même Pierre et nous avons besoin d'être lavés quotidiennement par Jésus. Et le lavement des pieds nous montre que nous sommes sur un chemin. Un chemin où nous voulons ressembler de plus en plus à Jésus. Un chemin où aimer comme Jésus est toujours un défi pour nous. Finalement, le verset 38 de notre chapitre. J'ai oublié. On va lire quand même les versets 36 à 38. Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais au plus tard, tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur ? Ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je l'assure. » je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Le verset 38 nous montre la bonne volonté de Pierre. La volonté de Pierre qui se heurte à un mur, droit dans le visage. Alors qu'il se croyait capable de mourir pour Jésus, celui-ci lui révèle qu'il n'est pas encore capable de le suivre jusqu'au bout. En effet, Pierre n'avait pas non plus un amour parfait pour son Seigneur et pour son Maître. Et donc je reviens à la question du début. Est-ce que nous pouvons vraiment aimer comme Jésus? Si les disciples ne sont pas capables de le faire, comment nous, aujourd'hui, nous sommes capables de le faire? Je vous invite à revenir au premier verset de notre texte. Jésus savait que c'était l'heure pour lui de quitter ce monde pour aller auprès de son Père. En effet, l'heure est venue pour Jésus de mourir à la croix. Et en Jean 15, nous lisons, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc, par amour pour nous, Jésus est monté sur la croix du calvaire. Et c'est ici qu'il va prendre notre place. Alors que nous avions choisi de vivre sans Dieu, il a envoyé son Fils pour nous réunir avec lui. Oui, par amour pour nous, Jésus est mort pour nos fautes et pour nos péchés. Il est mort pour notre insuffisance d'aimer comme lui. Et donc je repose la question, est-ce que c'est possible d'aimer comme Jésus? La réponse courte et défaitiste à cette question serait de dire non. Non, personne n'est aussi parfait que Jésus et donc on n'est pas capable d'aimer comme Jésus. Et nous venons de voir que cette réponse, quelque part, n'est pas entièrement fausse. Car seulement le Fils de Dieu pourrait nous aimer. Seulement lui pourrait mourir à la croix pour nous. Nous sommes donc incapables d'aimer à la hauteur que Jésus. De même, peut-être nous avons déjà été blessés et trahis par des gens dans l'Église, des chrétiens, que cela soit dans le passé ou au présent. Ou peut-être nous n'avons pas aimé comme Jésus nous aime non plus. Mais le verset 34 de notre chapitre, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », il n'est pas visé aux gens parfaits. Certes, les disciples avaient un ministère particulier, mais ils étaient des gens comme vous et comme moi. Tous avec leurs failles, leurs péchés, leur incapacité d'être parfaits, leur égoïsme, leur orgueil, et je pourrais continuer. Ainsi, le verset de notre week-end prend encore plus d'ampleur, car Jésus ne nous demanderait pas quelque chose d'impossible. Certes, aimer comme Jésus est un défi de toute une vie de disciples, mais ne soyons pas découragés, car avec Jésus, nous pouvons surmonter ce défi chaque jour. 1 Jean 4, verset 7, nous dit que celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Aimer comme Jésus, c'est possible pour ceux qui croient en lui. Et Jean 14, verset 17, nous montre que si nous croyons en Jésus, nous avons l'esprit de vérité qui habite dans nos cœurs. Le même esprit qui s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Le même esprit qui s'est donné à la croix pour nous et qui nous a montré un amour parfait, inconditionnel, irréprochable et universel. Ce même esprit vient nous habiter. Ainsi, aimer comme Christ n'est pas possible si on ne connaît pas Jésus. Mais je crois qu'il est possible pour nous. Car grâce à notre relation avec Jésus, nous connaissons l'amour véritable. Dans mon texte, j'ai écrit « Oui, chers amis, c'est ma prière que nous soyons amis, que nous soyons frères et sœurs. Chers amis, ou peut-être chers futurs amis, nous pouvons aimer comme Christ, car son esprit nous motive, nous guide et nous conduit, nous donne envie d'agir comme Jésus. Christ, il l'a dit, et nous avons entendu de la bouche de Paul hier, « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez pour les uns les autres. » C'est par l'amour que Dieu plante en nous que les gens qui ne connaissent pas Jésus réaliseront que nous avons quelque chose de différent. Il y a 4 ans, avant que je commence mes études à l'Institut, j'ai travaillé dans ce café associatif. Et avant chaque ouverture de nos portails, nous avons prié. Seigneur, que cet endroit soit une lumière dans ce quartier. Que les gens puissent te reconnaître à travers l'amour que nous avons pour les uns et les autres. Notre équipe n'était pas parfaite, et c'est sûr qu'on s'est embrouillé, de temps en temps. Mais chaque fois que quelqu'un est passé par le portail, la personne a dit, il y a quelque chose de différent ici. Il y a une âme. Des personnes ont été touchées par l'amour que nous avions pour les uns les autres, pour nous-mêmes et pour le quartier. Malgré nos imperfections, c'était très clair que nous étions unis par quelque chose de différent. Une des premières dames à oser passer par ce portail, elle ne connaissait pas le Seigneur. Et pourtant, elle a eu la même réflexion que tout le monde. Il y a quelque chose de différent ici. Sans qu'on ait besoin de parler, elle a vu Dieu à l'œuvre. Elle voyait l'amour de Jésus-Christ rayonner dans son quartier, elle, à partir de ce café. Et il y a 2 ans, elle s'est fait baptiser. Et aujourd'hui, elle est la directrice du café. Quand nous agissons selon la volonté de Dieu, son amour se voit et son amour se révèle. Et la semaine prochaine, nous allons découvrir comment nous pouvons aimer comme Jésus à travers l'accueil des uns et des autres. J'ai le plaisir de pouvoir prêcher dimanche matin. J'aimerais conclure. Je trouve que c'est touchant de voir comment Dieu nous donne la capacité d'aimer comme lui-même. Il a choisi son Église, un groupe d'hommes et de femmes imparfaits, pour faire éclater sa gloire et son amour dans ce monde. Donc restons humbles, car nous sommes les récipients de l'amour de Dieu. Et c'est lui qui va nous aider à déverser cet amour envers les uns et les autres. Je nous invite à prier le Saint-Esprit, prier qu'il nous aide. Prier qu'il nous aide à ne pas laisser d'autres éléments de la vie pourrir nos relations. Et comme je sais que, j'ai appris en tout cas, que Nîmes c'est un endroit où il y a beaucoup de vin. Voilà. Comme pour obtenir du bon vin, c'est un écossais qui le dit, donc il y a peut-être des quiproquos dans ma réflexion, mais comme pour obtenir du bon vin, il faut travailler la terre, je crois, arroser la vigne, enlever les mauvaises herbes et récolter les raisins au bon moment. Il y a sûrement d'autres choses. Je vais apprendre avec du temps. Voilà. Comme pour obtenir du bon vin, alors cette année, laissons le Saint-Esprit cultiver en nous et entrer et aider à nous entrer dans un amour saint. Je n'ai pas bien expliqué. Comme pour obtenir un bon vin, il s'agit d'arroser, de cultiver la terre. De la même manière, laissons le Saint-Esprit cultiver un amour entre nous, un amour saint. Qu'il nous aide à renouer des relations brisées et à voir des fruits dans notre témoignage. Pour conclure, vraiment, regardons le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Ça me donne le sourire. Et j'espère que ça vous donne le sourire aussi. Jésus nous a promis que mettre en pratique ce qu'il nous demande nous rendra heureux. Ainsi, aimons-nous les uns les autres, car cela produit une joie profonde dans notre cœur. Je nous invite à prier. Seigneur, merci. Merci pour cette église. Merci pour cette assemblée. Merci pour l'accueil que Charlotte et moi avons reçu. Merci pour l'amour que nous avons reçu alors que nous venons d'arriver. Seigneur, notre prière cette année, c'est que l'amour entre nous puisse être un amour saint, puisse être un amour qui reflète ta gloire, et puisse être un amour qui rayonne dans ce quartier, dans Nîmes. Seigneur, je te prie aussi de nous aider à reconnaître là où nous n'aimons pas comme toi, là où nous devons apprendre à aimer comme toi. Seigneur, je te prie de renouer des relations. Je te prie de nous aider à parler aux uns et aux autres avec amour. Je te prie de nous guider par ton Saint-Esprit. Plante-nous en nous une envie de te suivre, d'aimer comme toi. Seigneur, tu as aussi, tu connais ce couple dont j'ai parlé, et en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, nous voulons remettre ce couple entre tes mains. Nous te prions pour les deux personnes, que tu puisses les garder en ce moment et qu'ils puissent voir ton amour également. Seigneur, merci. Merci pour cette Église. Que tu puisses nous aider à nous aimer, à continuer à nous aimer de plus en plus comme toi, tu nous aimes. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen.